Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé.
Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, malgré tout. Vous êtes écrivain, chroniqueur, intellectuel. Vous avez tenu pendant près de 20 ans une chronique quotidienne au quotidien d'Oran. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur à l'hebdomadaire Le Point. Vous signez des tribunes régulières dans plusieurs journaux internationaux. Vous avez reçu le Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault contre enquête qui avait été publié chez Actes Sud. Et vous êtes le lauréat en 2019 du prix mondial Sino del Duca remis par l'Institut de France. Vous êtes en France, où vous venez tout juste d'arriver, parce que vous êtes l'un des invités des Journées nationales de l'histoire à l'Institut du monde arabe que France Culture coproduit, on en est le partenaire, autour du thème cette année des révoltes et des révolutions. Et dans ce cadre, demain, vous devez faire une conférence. On va revenir sur cette conférence dans quelques minutes. Vous intervenez régulièrement, Kamel Daoud, sur les questions de religion, de laïcité, de liberté. Vous venez d'arriver hier soir, vous arrivez avec cette annonce d'un abominable attentat. Ce matin, quelques journaux titrent « La barbarie frappe l'école », titrent « La terreur islamiste aux portes de Paris ». C'est le choc qui domine ce matin, vous le disiez dans le journal.
Écoutez, le choc bien entendu, mais en même temps, cette impression qu'ont beaucoup d'Algériens de ma génération, c'est celle de revivre ce que nous avons vécu dans les années 90, l'assassinat des enseignants, les décapitations, les attaques contre les journalistes, les meurtres de masse, les massacres de masse, tout cela, nous l'avons vécu. Et je disais à quelqu'un ce matin que je suis quand même assez sceptique et assez pessimiste, parce que ce qui s'est passé en Algérie ne me semble pas servir de leçon au reste du monde, à tous les pays qui sont confrontés à l'islamisme maintenant. Qu'est-ce que nous avons pu tirer comme leçon? J'ai l'impression que ce sont les islamistes et les djihadistes qui ont tiré leçon de la décennie de la guerre civile en Algérie. Ce sont eux qui ont su maintenant s'adapter, adapter leur stratégie, investir, faire de l'entrisme, s'accaparer les institutions, la culture, le droit à la parole. Mais en face, il n'y a pas de leçon tirée du cas algérien. Il ne s'agit pas d'arrêter des terroristes uniquement, il s'agit de démanteler l'islamisme. Et comme je le disais au début, on le démantèle sans culpabilité, sans fausse culpabilité, avec beaucoup de courage, sans haine envers autrui, mais avec de la fermeté. L'islamisme est une machine, et c'est cette machine-là qu'il faut démanteler.
Comment on le démantèle?
Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut dissocier l'islamisme du communautarisme. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on est propriétaire exclusif d'une religion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je suis d'accord avec Macron, il faut revenir sur la question de la mémoire coloniale, parce qu'elle sert de fond de commerce à ceux-là même qui veulent recruter sur la base de la douleur transmise par la mémoire. Ce sont des rentiers de la mémoire. Il y a une rente du post-colonial, et c'est une rente utilisée autant par certains milieux et certains éditorialistes, certains universitaires, milieux intellectuels, que par les islamistes qui jouent sur ça. Les islamistes ne parlent pas de colonisation, ils parlent de croisade et de contre-croisade. On est toujours dans cet imaginaire de l'Occident comme agresseur qu'il faut punir. Donc il y a, je me répète, mais il y a une dissociation à faire entre le communautarisme et la confession, parce que pour le moment on en est à une sorte de communautarisme confessionnel. On est ce qu'on est parce qu'on est musulman, et on oppose cette islamité à la francité. Et il faut la dissocier aussi de la mémoire de la colonisation qu'il faut assumer, dissoudre, en parler, faire revenir à la surface et la dépasser. Je pense aussi qu'il faut pouvoir, en France, chez vous, parler de l'islam sans complexe. L'islam est une religion et la religion n'appartient à personne. Tout le monde en est propriétaire. Personne n'est Dieu. Personne n'est son prophète. Donc j'ai le droit de parler du bouddhisme, du judaïsme, comme de l'islam. Si vous continuez à parler de l'islam comme s'il appartenait à une communauté, c'est que vous validez le statut d'interlocuteur exclusif chez les plus radicaux. Parlez de l'islam, il vous appartient, dissociez-le. Je suis pour le séparatisme, mais lequel? Le séparatisme qui sépare la religion des pays d'origine et des pays souches. L'islam est français maintenant. Il faut l'assumer comme un fait français. Et si on n'arrive pas à le séparer du fantasme du pays souche, c'est qu'on n'a pas résolu le problème.
Et est-ce qu'il faut séparer la religion de ce qu'on en fait quand on a une visée politique, une visée intégriste, c'est-à-dire séparer aussi l'islam de l'islamisme? Est-ce que le problème aussi en France, puisqu'on n'arrive pas à en parler sereinement, ça n'est pas le confusionnisme qui reste, qui domine autour de ces questions?
Il est partout dans le monde, il n'est pas exclusivement un fait français. C'est-à-dire, nous en souffrons en Algérie. Vous savez, la parole est quasiment interdite. Et sinon, il y a une terreur intellectuelle aussi dès que vous prenez parole contre l'islamisme. Vous avez en face de vous les islamistes qui vous l'interdisent par fatwa, par menace. Et vous avez les idiots utiles qui vous accusent de cultiver une rente, de faire le jeu de l'Occident, de vivre de ça, d'islamophobie. Donc on a les deux fronts qui vous attaquent. Donc, et ça se passe aussi en France et partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement séparer, c'est assumer. L'islamisme est un projet politique. C'est quelqu'un qui vise le pouvoir, point barre. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'interprétation. C'est une entreprise politique. L'islamisme est un candidat au pouvoir. Et un pouvoir sur vous, votre corps, votre sexualité, votre culture, votre histoire. L'islam est un choix intime, est un choix personnel. On n'a pas à en rendre compte vis-à-vis d'autrui, ni à l'exprimer. Le communautarisme, s'il doit s'exprimer, il peut s'exprimer par la cuisine, par l'habit, la culture, le livre, le romancier. Pourquoi exclusivement par la religion? Si vous acceptez cette accaparation du communautaire par le confessionnel, vous acceptez d'avoir comme vis-à-vis, encore une fois, que des extrémistes.
Vous disiez oui au séparatisme, mais pas n'importe lequel, Kamel Daoud. C'est d'ailleurs le titre de votre dernière chronique dans Le Point. Oui au séparatisme, ça fait écho au discours du président de la République sur le séparatisme islamiste il y a 2 semaines. Est-ce que cela vaut une loi?
Écoutez, j'ai titré de manière ironique, c'est-à-dire ce que moi je voudrais, ce dont je rêve, ce que je propose, c'est que l'islam soit accepté comme un fait français et séparé du pays d'origine. Si vous continuez à importer des imams des pays d'origine des communautés qui vivent en France, quel sera le résultat? Si vous continuez à subir le poids des lobbies politiques d'États tierces sur votre religion, l'une de vos religions, quel sera l'avenir? Si vous acceptez encore de parler de l'islam comme d'un fait exogène qui vient d'ailleurs, quel sera l'avenir de la France encore une fois? Moi, je trouve quand même ironique que un pays comme la France n'a pas le droit de parler de christianophobie ou de chrétiens dans l'Orient ou du Moyen-Orient ou dans le monde dit arabe ou au Maghreb, mais en même temps, un ministre des Affaires religieuses dans le Maghreb a le droit de parler des Français musulmans. De quel droit? Si vous ne coupez pas, si vous ne séparez pas, justement, et c'est là où j'emploie le mot séparatisme, eh ben vous acceptez que une partie de votre population soit sous tutorat d'une partie tierce. Et ça se passe maintenant, soit avec l'islam maghrébin, soit avec l'islam consulaire turc, etc. Donc, il faut que vous nationalisiez, entre guillemets, vos religions, quelque part, vos confessions, vos pratiques religieuses, vos croyances.
Ce matin, Kamel Daoud, dans le journal Le Parisien, Yanis Roder, qui est historien, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, qui dirige l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et qui lui-même enseigne depuis une vingtaine d'années dans un collège de Seine-Saint-Denis, dit « Au niveau du symbole, il n'y a pas pire que de s'attaquer à un professeur ».
Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui nous touche tous. C'est quand même un lien fondateur de nos vies. Le lien que nous avons eu au début de nos vies avec l'enseignant. L'enseignant, c'est une figure majeure de toute la construction symbolique en France. C'est une forme de sacerdoce. C'est une charge symbolique. Mais en même temps, s'attaquer à un enseignant, l'égorger, le tuer, c'est un crime. Mais au-delà du crime, c'est un refus de filiation, c'est un refus de transmission, c'est un refus d'une vision de la vie. C'est quelque chose qui nous choque. De toute la guerre civile algérienne que j'ai vécue entre mes 20 et 30 ans, c'est-à-dire celle qui m'a volé la plus belle partie de ma vie, je me souviens d'une chose. Les enseignantes égorgées à l'ouest algérien, c'était des enseignantes qui étaient dans un bus, qui se dirigeaient au matin vers un petit hameau pour donner leurs cours, qui ont été prises dans ce qu'on appelle en algérien un faux barrage, c'est-à-dire un barrage de djihadistes, et qui ont été égorgées. Cette image-là m'obsède, elle ne me quitte jamais. Et c'est quelque chose de très lourd. Elle touche en nous quelque chose de plus profond que le simple sentiment de scandale, ou d'indignation, ou de choc. Ça va au-delà. Il y a quelque chose qui confesse une rupture profonde, un refus mais absolu.
Vous disiez tout à l'heure que ça vous rappelait ces années-là, justement, les années noires en Algérie, la décennie des années 90. Malgré tout, nos deux histoires ne sont pas les mêmes. Malgré tout, nos deux cultures ne sont pas les mêmes en France et en Algérie, même si on partage beaucoup de choses et une grande partie de l'histoire aussi. Qu'est-ce qu'on a raté en France pour que de tels actes soient possibles, sachant que il y a 3 semaines, un homme a attaqué 2 personnes au hachoir dans le cadre du procès des attentats de 2015, pensant attaquer des journalistes de Charlie Hebdo qui avaient donc, et c'est le même cas avec hier soir, republié ces caricatures. Et on va y venir dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a raté en France, hein?
Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je réagis.
Non, mais vous regardez avec un œil extérieur.
Disons que ce qui a été raté, c'est d'abord de considérer l'expérience algérienne, de voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, à partir de quand a commencé la défaite. Pourquoi, avec une victoire militaire sur l'islamisme en Algérie, on en est à une défaite du point de vue culturel, du point de vue des mœurs, du point de vue de la société actuellement. La société algérienne s'islamise, mais... très rapidement, n'en déplaise à ceux qui affichent des selfies, des portraits pour dire que non, il y a une laïcité qui est en marche, etc. Ce n'est pas vrai. La société a basculé. Les islamistes ont été vaincus militairement, mais ils ont été vainqueurs d'un point de vue idéologique. Donc ce que peut-être vous avez raté, c'est de prendre conscience que l'islamisme ne naît pas en un seul jour. C'est un milieu associatif, c'est du bénévolat, c'est une prise en charge des reclus, des exclus de la société. C'est de l'école, c'est une force de frappe éditoriale. C'est faire face encore plus avec Internet. Lorsqu'un livre coûte 20 euros et qu'un livre de propagande sur le paradis et les délices des vierges au paradis ne coûte rien, c'est qu'il y a une défaite culturelle quelque part. Il y a une misère culturelle qui est récupérée de l'autre côté. Il y a une force de frappe financière et de propagande qui est là. Donc il y a aussi ce débat qui a été quand même plus ou moins mis de côté sur qu'est-ce que l'islam de France et comment, qu'est-ce qu'il faut en faire. Refoulé, il revient avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de monstruosité et de terreur, comme dans nos rêves. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. Il y a aussi la fermeté. Je suis...
Qu'est-ce que ça veut dire, la fermeté?
Alors, je suis quelqu'un qui est contre la négociation indirecte avec l'islamisme. L'islamisme doit être combattu. C'est ma conviction. Il doit être combattu, refoulé, repoussé. Il ne doit pas être, on ne doit pas le céder devant l'islamisme au nom de la culpabilité, au nom de la volonté de comprendre les autres, etc. Comprendre les autres, ce n'est pas tolérer les dépassements de loi. Il faut qu'il y ait une affirmation absolue et ferme sur la laïcité. C'est une république, c'est un pays où on veut vivre. C'est un pays vers lequel des gens voyagent au détriment de leur vie pour profiter du luxe, mais aussi de la possibilité de s'émanciper et aussi de la liberté. Alors, on ne peut pas se permettre de perdre cette liberté. Je dis souvent à des personnes que je rencontre que vos compromissions sont nos défaites. Si vous vous cédez, nous sommes foutus.
Vous dites qu'il faut, Kamel Daoud, combattre l'islamisme. Est-ce que cela passe par un travail paradoxalement, et c'est peut-être ça qui est le plus terrible ce matin, d'éducation, pour éviter, parce qu'il y a l'islamisme, il y a ceux qui passent à l'acte, et puis il y a ceux qui vont basculer, qui n'ont pas encore basculé, et qui sont tentés, et c'est le sujet de votre conférence demain à l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage plutôt dans la religion et son intégrisme, plutôt qu'ailleurs, dans la société?
Il n'y a pas que ça, il y a aussi ceux qui les excusent, ceux qui fabriquent leurs excuses. J'ai remarqué en Algérie comme ailleurs que les islamistes sont obsédés par 2 secteurs au début, la justice et l'éducation. Personne n'a été autant combattu en Algérie que l'ex-ministre de l'éducation, par exemple, parce que c'est une femme, parce qu'elle est moderniste et parce qu'elle contrôle l'école. Ce qu'ils veulent, c'est l'école. Ils veulent les générations futures. Donc si on perd sur l'école, on perd tout le reste. Et partout dans le monde, vous voyez le parcours d'Erdogan en Turquie, ils sont obsédés par l'éducation, par l'école. Ils veulent nos enfants. Parce qu'ils savent que nous, ils ne peuvent pas nous convaincre. Ils peuvent nous tuer, nous refouler, mais ils ne peuvent pas nous combattre, nous convertir. Par contre, ils veulent nos enfants. Ils veulent nos enfants à l'âge le plus précoce. Donc l'éducation est importante. Et puis, le discours sur la religion est important. Il faut se réapproprier le droit de parler de l'islam sans culpabilité.
Enseigner le fait religieux, le débat est à nouveau sur la table.
Pas uniquement.
En France.
Pas uniquement,
au sens large. Hein,
oui, au sens large. Mais je ne sais pas, je ne connais pas très très bien les structures françaises, mais je pense que la formation d'un clergé musulman est importante, en langue française surtout. On n'a pas idée de ramener un imam d'ailleurs qui maîtrise la langue arabe pour parler à des candidats à la citoyenneté absolue et idéale française dans une langue qui est chargée d'histoire, qui est chargée de mémoire aussi. Donc je pense que la formation d'un clergé musulman en France est importante. Je pense aussi que le retour aux études théologiques est important. J'ai toujours trouvé scandaleux et catastrophique la mort de l'orientalisme. On l'a tellement décrié. On a toujours pensé que l'orientalisme était une sorte de collection de clichés savants. Mais la réalité, c'est qu'il y a 50 ans, on avait des imminences qui parlaient d'islam. Maintenant, on a des imams de banlieue qui parlent d'islam. Donc le retour aux chaires religieuses et théologiques est important. La traduction est aussi importante. Il ne suffit pas de dire que nous avons un discours moderne. Il faut aussi le traduire, le diffuser et se faire traduire les ouvrages des autres. Donc je pense que traduction, formation, droit de parole sur l'islam et résoudre la question de la mémoire coloniale sont des faits importants et des pas importants.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
8h31 sur France Culture, c'est l'heure de la revue de presse des idées avec Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Une question aujourd'hui, peut-on être optimiste en 2020?
Oui, est-ce possible et le faut-il? C'est une question qui se pose déjà à propos du Covid bien sûr. Dans le quotidien L'Humanité, Éric Lebourg, chercheur au CNRS, s'inquiète de lire dans la presse des prévisions apocalyptiques qui, dit-il, génèrent la peur et l'angoisse. Il n'est pas sûr que continuer à rendre public de telles prévisions aide à lutter. On peut même penser que ce serait plutôt le contraire, affirme-t-il. D'ailleurs, poursuit-il en substance, il y a aussi des projections moins alarmistes qui ont moins de publicité que les autres, alors que rassurer la population devrait être, selon lui, une priorité. Réponse intéressante à ce point de vue dans la presse irlandaise. Sur le site Irish Tech News, l'écrivain Jeremy Murphy publie un texte intitulé « La pensée pessimiste et comment elle pourrait nous sauver du Covid-19 ». Alors l'opinion n'est pas à la mode. Tant de livres, dit-il, célèbrent les vertus de la pensée positive, l'optimisme et même la vertu cardinale du 21e siècle. Et pourtant, certains optimistes pensaient que le Covid reculerait après l'été. Ils se sont trompés. Les Suédois ont cru à leur propre capacité à respecter des réglementations sans se confiner. C'était là encore optimiste, en témoigne leur pic initial dans les décès. Aujourd'hui, les chiffres sont en hausse dans toute l'Europe, en grande partie parce que les gens ne suivent pas les règles. À cet égard, conclut-il, il est avisé d'avoir des pessimistes plus défensifs qui participent aux discussions sur la politique de santé. On lira ensuite cet éditorial en longueur de Donald McNeil dans le New York Times. Il s'intitule « Une dose d'optimisme ». Alors lui, il suit l'évolution de l'épidémie depuis janvier 2020. Selon ses propres mots, au départ, il était une Cassandre constamment lugubre. Mais il est devenu plus optimiste parce qu'il voit par exemple que les Américains adoptent largement le masque malgré la résistance de leur président lui-même, parce que les maisons de retraite protègent mieux leurs services aujourd'hui, ou encore parce que des médicaments comme la dexaméthasone ont permis de réduire le nombre de décès parmi les patients hospitalisés.
La question de l'optimisme et du pessimisme se pose également sur d'autres sujets dans l'actualité.
Oui, oui, sur l'élection américaine notamment. La revue scientifique britannique Nature publie un éditorial en longueur pour soutenir Joe Biden. Alors ce n'est pas la première fois que cette publication indique ses préférences, mais alors cette fois-ci le texte est particulièrement cinglant. L'un des héritages les plus dangereux de cette administration Trump, écrit-elle, sera son bilan honteux d'ingérence dans les organismes de santé et de science. Alors pourquoi un engagement aussi fort de Nature cette fois-ci? Eh bien parce qu'il y a 4 ans, ils avaient été trop optimistes. Ils croyaient alors que le système de frein et de contrepoids de la démocratie américaine pourrait limiter les dommages. Comme nous nous sommes trompés, disent-ils, cela n'a pas empêché l'administration Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, de l'UNESCO et même, impensable en pleine pandémie, de l'Organisation mondiale de la santé. Si Joe Biden est élu, poursuit la revue, il pourra faire en sorte que les États-Unis respectent leurs engagements internationaux. Et puis il y a un endroit où être optimiste n'est vraiment pas simple, c'est le Liban. Le défi à relever, c'est le titre d'un éditorial de Michel Souma dans L'Orient le Jour. Croire en l'avenir, ce peut être effectivement un défi à relever pour ce pays qui n'a cessé d'être confronté à des crises. L'intervention américaine de 1958, la guerre libanaise de 1975 jusqu'à 1990, dès 2005 des interventions iraniennes par le biais du Hezbollah qui se font de plus en plus pesantes. C'est comme si, peut-on lire, un sort maléfique avait été jeté sur le pays du cèdre. Alors, faut-il renoncer à l'optimisme? Non, répond Michel Touma. Les différentes périodes de discorde et de guerres intestines puisent leur source, dit-il, soit dans des ingérences et des occupations étrangères, soit dans la propension de factions locales à solliciter elles-mêmes des interventions pour consolider leur position. Le Liban, poursuit-il, a connu plusieurs longues périodes de stabilité. Par exemple, dans les années 60, ces périodes ont tout un point commun, la mise à l'écart du pays, des tensions et des conflits dans la région. La neutralité constructive serait donc la seule voie de salut permettant d'engager le pays sur le chemin de la prospérité tant recherchée.
Kamel Daoud, faut-il renoncer à l'optimisme ?
plus ou moins. Enfin, je pense que, personnellement, je reste optimiste parce que c'est une question d'oisiveté. C'est-à-dire, si je deviens pessimiste, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, je vais m'ennuyer. Sans jeu de mots, je pense que l'optimisme est de mise. Ça, on est obligé d'espérer. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. On est obligé de s'accrocher. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, sinon continuer à vivre? Parce que l'autre choix, c'est de mourir immédiatement.
Vous arrivez dans un drôle de pays, vous en quittez un autre drôle quand même, mais si on se concentre un instant sur la France, vous arrivez avec un attentat la veille au soir dans un pays qui compte 20 millions d'habitants en couvre-feu depuis cette nuit. Couvre-feu, je pense que chez vous aussi ça doit résonner d'une drôle de façon.
Rien de neuf pour moi. Je veux dire, couvre-feu, restrictions, fermeture des frontières. Nous avons vécu ça encore une fois en Algérie, donc ce n'est pas quelque chose de neuf. Et en même temps, le mot couvre-feu a une longue mémoire dans l'histoire algérienne et dans les esprits. On a toujours vécu sous couvre-feu. Mais je ne prends pas les choses comme ça. Je pense que le monde entier est dans cette situation-là. Il y a des pics un peu partout, pas uniquement en France. Donc, c'est, quelque part, le virus nous a repoussé vers une sorte de condition commune au-delà des nationalités.
Comment ça se passe en Algérie en ce moment?
Les frontières sont fermées, ce qui est très difficile à supporter pour beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de déplacements, etc. D'un point de vue sanitaire, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins une sorte de maîtrise. Bon, c'est un pays qui contrôle toutes les entrées, y compris
53 000 cas depuis mars.
On ne peut pas avoir une visibilité. Vous savez, c'est pour revenir à la chronique qui vient d'être diffusée, on est sûr de rien, ni de l'information dite, ni de l'optimisme, ni du pessimisme, ni du bilan. Moi, je peux parler de ce que je vois, et ce que je vois, c'est une vie plus ou moins normale, malgré les difficultés, malgré l'inflation, malgré le coût de l'après-soulèvement, parce que nous avons été confrontés à une double facture, celle du soulèvement et celle du Covid, le soulèvement du 22 février qui a conduit à la chute de
Bouteflika.
Donc, personnellement, je m'attendais à une sorte d'effondrement plus catastrophique, ce n'est pas le cas. Je reste donc quelqu'un de lucide, mais quelqu'un qui voit les choses avec un petit peu d'optimisme.
Les manifestations sont interdites depuis mars. Certains disent que le pouvoir algérien profite de la maladie de Covid-19 pour tenter d'enterrer une bonne fois pour toutes le mouvement de contestation populaire auquel vous faisiez référence il y a une seconde, le Hirak. Vous en pensez quoi, Kamel Daoud?
Très difficile. Généralement, je m'abstiens de commenter et de répondre à ce genre de questions pour une raison très simple. Le ton de radio étant ce qu'il est, il est très difficile d'aller au-delà des simplifications pour expliquer ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, c'est, oui, le régime tire profit du Covid, mais tous les politiciens dans le monde entier tirent profit de cette situation-là. Je veux dire, c'est dans leur nature. D'un autre côté, les rassemblements impressionnants comme ceux de 2019 ne sont pas possibles pour cette raison-là, mais aussi parce qu'on est dans une situation, disons, de sursis. Une grande majorité de la population accorde une sorte de crédit très provisoire au régime actuel pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ils ont été confrontés à une situation très inquiétante. C'est soit d'un côté la stabilité et la sécurité, et les dictatures savent définir la sécurité, même avec abus, et de l'autre côté, des avant-gardistes sur le mouvement, des militants qui sont là, qui continuent un petit peu de manifester, mais, encore une fois, je le dis et je l'assume malgré les critiques, qui n'offrent pas quelque chose de concret pour les pères de famille, pour les gens qui ont besoin d'un salaire, qui ont besoin de sécurité. Donc, on a un petit peu les deux. Il y a une très belle phrase de Michel Tournier qui disait que dans une prison, certains voient les barreaux, d'autres voient la toiture. Et on est dans cette situation-là aussi. Donc il y a des gens qui ont besoin de sécurité, d'autres qui ont besoin de démocratie. Et la jonction des deux fait qu'on a de grands soulèvements. La séparation des deux fait qu'on a des militants et des citoyens qui sont en attente. Donc est-ce que le régime a gagné? Encore une fois, je dis que non, c'est un sursis. C'est un sursis prudent, pragmatique. C'est un sursis de la vaste majorité muette pour le moment. Mais le régime assure et rassure pour le moment. D'un autre côté, encore une fois, est-ce qu'on a le droit de marcher? Oui, on a le droit de manifester, je le défends. Est-ce qu'on a le droit d'emprisonner des militants? Non. Chacun doit être libre de ses opinions en Algérie. Mais en même temps, je pense qu'il faut aller au-delà de ce soulèvement, en faire quelque chose de politique. La politique, c'est une négociation de rapport de force. Et si on continue dans cette voie de militantisme idéaliste, presque romantique, on va faire le jeu du régime. On va faire le jeu de l'arrière-garde du régime. Actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons des conservateurs qui sont plus ou moins dans le pouvoir, qui sont le pouvoir, et qui négocient avec des islamistes qui sont en conquête. Les démocrates, malgré une hyper-visibilité médiatique en Occident, ne pèsent pas. Je suis désolé de le dire, mais ne pèsent pas réellement. Donc on va avoir une voie ou si on ne se reprend pas, si on ne fait pas le travail que font les islamistes, réinvestir le bénévolat, l'associatif, aller vers les villages, convaincre, frapper aux portes, à s'asseoir dans les cafés, eh ben on sera des héros magnifiques mais inutiles.
C'est pour cette raison-là, parce que ce n'est pas assez politique et dans le sens que vous venez de le dire, Kamel Daoud, que vous avez pris vos distances depuis quelque temps avec ce mouvement. Certains, alors je vais le citer, c'est un chercheur, Jean-Pierre Filiu, vous reproche d'avoir enterré le mouvement et d'apporter une caution à la propagande du régime algérien. C'est important d'entendre ce que vous dites ce matin. C'est important d'entendre la prudence. C'est important d'entendre la nuance, puisqu'on en manque considérablement aujourd'hui.
Être accusé d'enterrer le mouvement, c'est trop d'honneur. Ça veut dire que j'ai vraiment une puissance de frappe incroyable, ce qui n'est pas le cas. Vous savez, les soulèvements et les révolutions, quand ça dure trop longtemps sans aboutir à du politique, donnent la parole aux plus radicaux et au radicalisme, à la radicalité et à la futilité en même temps. Donc ça finit toujours par les procès des pères. Je crois au droit de l'autochtonie. Je vis en Algérie, j'ai plus conscience de ce qui se passe dans ce pays-là qu'à partir d'une chaire universitaire en France, sans vouloir dire autre chose. Je n'ai pas pris mes distances, non. Les choses étant ce qu'elles sont. En décembre dernier, j'ai écrit un article dans Le Point qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, où j'ai parlé de l'échec provisoire. Et j'ai dit que si nous n'allons pas vers le pays profond, si nous ne sortons pas des boulevards d'Alger, si nous ne concevons pas la révolte au-delà des selfies et des parades sur les réseaux sociaux, nous allons perdre le réel. Un philosophe français m'a dit en juin dernier, dites à vos amis de faire attention aux réseaux sociaux et aux virtuels. Parce que il ne s'agit pas d'écrire des tweets et des posts, il faut aller vers la rue, vers le réel. Donc j'étais contre cet enfermement d'un soulèvement aussi extraordinaire dans des postures numériques. D'un autre côté, pour moi, la politique, c'est négocier. Je suis contre les ruptures violentes. Je voudrais qu'on aille vers la construction d'une offre politique concrète pour la population, pour qu'elle puisse nous suivre, continuer à être dans le dégagisme radical. C'est très beau. La vérité a besoin de radicalité, mais jusqu'à un certain moment. Au-delà, ça devient de la posture. Et nous en sommes là. Pour le moment, nous sommes dans une sorte de blocage où les gens se retournent vers le régime ou vers les islamistes parce qu'ils ont besoin de solutions. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur pays et qu'est-ce qu'on leur propose. Donc dire que dégager tous, ça leur fait peur. Ça leur rappelle la Libye, la Syrie et d'autres pays. Donc je n'ai pas pris mes distances. Il y a mille manières de s'engager dans son pays. Ramasser des châssis en plastique, c'est s'engager dans son pays. Essayer de s'engager dans un mouvement associatif, c'est s'engager dans son pays. La révolution, ce n'est pas une parade numérique, ce ne sont pas des posts et des expressions de solidarité. Ça veut dire quoi la solidarité? Écrire un message, un tweet et rentrer chez soi, regarder Netflix? Non, la solidarité, c'est essayer de renverser le rapport de force, de le rééquilibrer, d'investir la rue et le réel encore une fois. C'est ça une révolution. Une révolution doit aboutir à une expression politique. Sinon, c'est l'échec retentissant, sublime, très beau, ça fait de beaux souvenirs, mais ça ne change pas le réel. Je voudrais qu'on arrive à cette situation où on fait la différence entre narcissisme, entre égo, entre posture de martyr et de martyr numérique et la réalité. Je suis triste de voir en Algérie, par exemple, de très grands journalistes pour qui j'avais beaucoup d'admiration, qui ont survécu à la guerre civile, finir avec des postures, avec des postes où ils répètent des slogans qui n'ont aucun sens politique. Dégagez tous, nous sommes encore là, ça ne veut rien dire. Le plus important, ce n'est pas de convaincre un média étranger. Le plus important, c'est de convaincre un père de famille ou une mère de famille algérienne dans le pays profond. On gagne ainsi. On gagne en concevant du compromis. On gagne par négociation, sinon c'est la violence. On gagne par ce qu'on arrive à imaginer l'avenir. On gagne parce que il faut avoir une vision claire. Et je disais souvent à des amis algériens qui sont très militants, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner ou vous voulez avoir raison? Ce sont deux choses différentes.
Hier, France Culture consacrait toute sa journée à un débat, une discussion, des émissions sur l'état du débat public en France. Que faisons-nous du débat public qui se porte pas très très bien? C'était un peu la conclusion de cette journée, mais en même temps avec là aussi un peu d'optimisme et surtout de la réflexion. Que peuvent les mots aujourd'hui? Que peut-on, quand on est un écrivain, comme vous l'êtes, que vous exprimiez dans les journaux ou que vous exprimiez par des livres, que peut-on faire, dire? Quel est l'état de la liberté de ce point de vue-là?
Écoutez, quand on manque de liberté, il faut s'employer à la définir, encore une fois, pour qu'on ne l'oublie pas. Donc un écrivain peut être le témoin de son époque, il peut rappeler des choses. C'est la petite fée aux allumettes qui rappelle que les allumettes existent et qu'on peut les allumer, qu'on peut regarder autre chose. Les mots, il faut aussi en garder la propriété. Les fascismes, les intégrismes, les radicalismes commencent toujours par une appropriation des mots. Vous savez, en Algérie maintenant, je cite souvent cet exemple, ce sont les islamistes qui définissent le sens de laïcité. Ce sont eux qui disent que laïcité, ça signifie islamophobie, détestation de l'islam, atteinte aux valeurs nationales, authentiques, etc., etc. Ce sont les islamistes qui définissent le mot féminisme. Ce sont les islamistes qui définissent le mot islamophobie. Et on se souvient, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies, il y a plus la moitié d'un siècle, ce sont les fascismes qui ont défini les mots. Et si nous perdons l'usage, la valeur, le sens des mots, nous avons déjà perdu.